Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous. Voilà, seconde journée au MIPIM à Cannes, sous un ciel magnifique, etc. Alors je sais que ça donne envie, et si ça vous donne envie, vous faites une chose, vous venez nous voir. Voilà, il est encore temps de s'accréditer ici au MIPIM, c'est la 34e édition, on est très heureux de vous retrouver. Une journée marquée par des rencontres politiques. On va rencontrer ce qu'on aime le plus chez Radio Immo, c'est les élus locaux. Parce que les élus locaux, c'est eux, c'est seulement eux qui sont à portée de territoire, si on peut dire les choses comme ça. C'est eux qui fabrique la ville au quotidien, et je trouve qu'il serait bien, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent dans nos tournées de France, qu'on s'en souvienne au niveau de l'exécutif par exemple. Voilà, alors justement l'incarnation d'un élu local, je suis très heureux d'ouvrir cette seconde journée avec lui. Il est premier adjoint au maire de Nîmes, délégué à l'urbanisme, on l'avait retrouvé lors d'une très belle émission qui s'appelle Les Clés de la Ville avec nos amis du Figaro, c'est Julien Blantier. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors, je sais que vous faites un aller-retour éclair, de Nîmes à Cannes, pour prendre la température. Quand vous venez ici au MIPIM, que vous voyez un peu toute cette industrie immobilière qui s'agite sur toutes les classes d'actifs, le logement, l'hospitalité, les résidences gérées, le retail, le bureau, ça évoque quoi lorsqu'on est un élu local ?
Mais ça évoque à la fois du développement économique, mais aussi une attractivité du territoire, donc il est important pour nous, en tant que décideurs locaux, d'être présents sur ce type de congrès pour être à la rencontre de ces professionnels de l'immobilier et de l'urbanisme pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi s'intéresser à des territoires tels que les nôtres qui sont parfois considérés comme des territoires en difficulté mais sur lesquels il y a de très beaux projets qui se font.
Alors justement, il n'y a pas si longtemps, quelques jours à peine, le ministre du Logement est venu chez vous. Vous l'avez reçu, c'est Guillaume Kasbarian.
Oui, alors il est venu dans le cadre d'une interview au quotidien régional qui est Midi Libre pour répondre à un certain nombre de questions.
Alors, quand vous avez lu les résultats justement de cette interview, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Est-ce que les annonces vous ont convenu ? Comment vous l'avez interprété ? Ouais.
Écoutez, c'est vrai qu'on était très en attente d'un certain nombre d'annonces. Quand on voit aujourd'hui la manière dont le gouvernement a pu gérer la question du logement, ça montre que c'était pas forcément une priorité dans le cadre de la composition du Premier ministre Gabriel Attal, mais on s'est rendu compte que, in fine, il y avait quand même une nécessité de prendre en compte ces considérations. Et donc, sa nomination a été attendue, ses annonces sont attendues. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on est en attente. On est en attente que l'État puisse prendre en considération les priorités, les nécessités absolues par rapport au développement de l'immobilier et du logement. On le voit, nous, sur les territoires. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'accompagner des personnes qui souhaitent se loger parce que, d'un point de vue financier, d'un point de vue de la conjoncture, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'État a l'obligation de s'imposer.
Alors, justement, le ministre du Logement a publié ses 10 mesures. 10 mesures. Je vais les égrener, vous allez me dire ce que vous en pensez. Accélérer, moderniser les procédures d'aménagement pour faciliter la production de logements neufs, législatifs et réglementaires. Bon, c'est plutôt bien.
Oui, alors, c'est toujours...
Se réveiller avec un second mandat d'Emmanuel Macron au bout de 5 ministres.
Moi, par rapport à cela, j'entends les ambitions gouvernementales. La difficulté après, c'est la mise en œuvre pratique. Je vais vous donner un exemple très précis. Nous, aujourd'hui, sur Nîmes, on est en train de mener avec beaucoup de difficultés un projet de rénovation urbaine dans le cadre du NPNRU. C'est plus de 600 millions d'euros qui vont être injectés sur les quartiers nîmois pour procéder à une phase extrêmement importante du renouvellement urbain. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que l'on se bat contre vents et marées avec les autorisations environnementales, les autorisations administratives. Et aujourd'hui, malgré toutes les bonnes volontés ou les annonces qui vont être faites, on voit qu'aujourd'hui, il y a parfois un très grand décalage, un fossé entre une volonté politique et une réalisation administrative. Aujourd'hui, on voit très bien que d'un point de vue de la DDTM, de la DREAL, il y a parfois des freins qui s'imposent à nous sur lesquels on ne peut pas y déroger. On a d'autres exemples. On est en train de réaliser un parc urbain en cœur de ville sur plus de 15 hectares sur un projet global de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on est toujours en attente des autorisations environnementales.
Alors justement, c'est marrant, c'est intéressant ce que vous dites parce que accélérer et appliquer les règles d'urbanisme, ça doit vous faire sourire, parce qu'effectivement...
C'est juste qu'en fait, il faut comprendre...
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Voilà, vous êtes vous êtes, comme certains républicains l'ont fait avant vous, vous basculez du côté de la Macronie, vous devenez ministre...
Cela n'arrivera pas, me concernant. Mais bon, pour autant, mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, je crois que notre système administratif tel qu'il est fait a besoin d'un choc de simplification. Il faut qu'on aille plus loin dans le phénomène de déconcentration, comme l'a d'ailleurs, je crois, évoqué le président de la République devant sa haute fonction publique il y a quelques jours, pour qu'on puisse donner plus de pouvoir d'un point de vue local, notamment au niveau du département, pour que le préfet ait la main. Regardez l'exemple de la crise agricole, pour moi, est un signal fort. Il a été donné aux mains du préfet un certain nombre de mesures et d'applications. Je crois que d'un point de vue de l'urbanisme et d'un point de vue de l'immobilier, il faut aller aussi en ce sens, pour qu'on puisse donner au plus près des territoires les prises de décision.
Qu'est-ce qui vous reste, vous, les maires ?
Comme
pouvoir régalien.
D'une part, l'initiative politique, quand même. Oui. Être à l'initiative d'un certain nombre de projets. Oui. Être dans un rôle de facilitateur vis-à-vis d'un certain nombre de décideurs locaux. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire vérifier que les règles liées à l'urbanisme sont respectées. Je ne demande pas à ce qu'on ait plus de pouvoir d'un point de vue communal. Mais en tout cas, lorsque les territoires ont des projets, que l'État soit en capacité, je ne dis pas d'être facilitateur, au moins d'accompagner la mise en place des projets.
Julien Plantier, ça serait logique que vous ayez finalement un pouvoir tout à fait régalien sur votre territoire, même un transfert de responsabilité qui incomberait naturellement à la préfecture.
Bien sûr.
Ça ne me choque pas, moi.
Non, mais on l'a. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, soit dans une relation de partenariat.
Oui, je comprends.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système français est extrêmement bien fait. On est décentralisé et déconcentré dans le cadre d'un État unitaire. Il faut absolument qu'on soit sur un terrain d'équilibre entre les deux pouvoirs et surtout qu'on mette en place un certain nombre de mesures pour faciliter les projets. Moi, vous me parlez tout à l'heure de ministre du Logement. Je suis désolé de le dire, mais on se rend bien compte, et vous l'avez souligné, qu'au bout du milieu de ce deuxième mandat, on ne sent pas un État qui soit en capacité d'accompagner les propriétaires. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le marché immobilier à l'échelle du territoire local, aujourd'hui, soit il y a des ventes en bloc qui se font vis-à-vis d'un certain nombre de gros bailleurs, Action Logement pour ne pas le citer le premier, soit les opérateurs privés sont en difficulté pour mener bien les projets.
Avec moins de 40%, je peux vous dire qu'ils sont en sérieuse difficulté. Alors justement, accélérer la digitalisation des autorisations d'urbanisme, c'est intéressant d'ailleurs parce que notre groupe média travaille sur ce projet avec la DGALN, ce qui est une très bonne chose, mais encore une fois, second mandat d'Emmanuel Macron, 4 gouvernements, 5 ministres du Logement. Et je suis sûr que vous devez être fatigué.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore quelques jours, on était avec un certain nombre de collègues élus du département, avec le président de la Fédération française du bâtiment, M. Salmeron.
Olivier Salmeron.
On a fait un dîner de travail, et lui le premier, il nous a dit aujourd'hui, on a besoin de stabilité. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à mettre en place un plan d'action à court, moyen et long terme dans le cadre de l'immobilier, de l'urbanisme à l'échelle du territoire.
Sécuriser les porteurs de projets en amont. Au niveau réglementaire, raccourcir les procédures de recours pour économiser jusqu'à 10% du coût du partage foncier. Vous y croyez ?
Mais ce sont des éléments qui peuvent faciliter et aider, mais cela ne va pas régler la problématique globale. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait un signal fort qui soit envoyé.
La 10e mesure est intéressante. Identifier les leviers permettant de statuer plus rapidement sur la recevabilité des recours et d'agir plus rapidement en cas de refus de permis de construire aux entendus. Et moi, je vais vous dire, quand je lis ça, je me dis, ça, c'est adressé au maire.
Alors, c'est adressé aux maires, peut-être,
mais
j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui nous permettent d'éviter de trouver des lenteurs dans le cadre de l'instruction de permis de construire. Je vous donne un exemple là aussi précis. Nous savons qu'on a mis en place aujourd'hui un rôle de concertation avec à la fois le porteur du projet et l'environnement proche, ce qu'on appelle une sorte de marche urbaine, pour envisager qu'on puisse vite mettre en relation le porteur du projet qui prend des risques, aujourd'hui encore plus importants que par le passé, de mettre en place des projets immobiliers dans le cadre d'immeubles collectifs. Et dès que ce projet est présenté, on l'encourage et même on assiste parfois à un certain nombre de réunions pour éviter qu'il y ait de potentiels recours par la suite, parce qu'on sait très bien que c'est source de ralentissement. Pour nous aussi, parfois, c'est source de difficultés, parce que du coup, ça crée de la frustration, ça crée parfois des instabilités de relations entre les riverains et le promoteur. Et donc, on travaille en ce sens. J'ai envie de vous dire, on n'a pas attendu le gouvernement pour travailler là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on est au contact et au plus près des préoccupations du terrain. Aujourd'hui, je crois qu'il faut, qu'on soit dans une double posture. À la fois, travailler sur un soutien vis-à-vis des opérateurs, parce que pour nous, c'est un signal important de voir que des opérations se font sur le territoire. Lorsque je vois aujourd'hui, dans le cas du MIPIM, toutes ces personnes qui sont en capacité à l'échelle locale, régionale, nationale, voire même internationale, de développer l'immobilier, je crois que c'est un signal fort qui est envoyé pour notre pays. Il faut que nous, en tant qu'élus locaux, on soit en capacité de le saisir. Par contre, à côté de cela, il faut aussi qu'on soit en capacité de pouvoir être en capacité de défendre ces projets. Pour cela, il faut qu'on y croit et qu'on soit en capacité d'aller voir les riverains pour les défendre.
Vous portez un discours qui est très similaire à la tribune qu'avait publié David Lisnard, le maire
que
de...
j'ai lu dimanche,
voilà,
tout à fait.
Le président de l'AMF. Alors lui, il est extraordinaire parce qu'il n'y va pas par le bout de la cuillère. Hein. Il dit clairement, on est en état de crise grave et il y a un coupable désigné.
Mais, en fait, aujourd'hui...
Non, mais il désigne le coupable. C'est-à-dire que c'est pas de la méthode Coué de dire c'est de la faute à un exécutif qui a laissé aller une situation grave. Julien, on n'était pas obligé de mettre fin au Pinel. On n'était pas obligé de réduire les APL. Mais de réduire le PTZ, vous voyez ce que je veux dire.
La difficulté qu'on a, et je vais le dire de manière extrêmement grotesque, je pense qu'aujourd'hui le président Emmanuel Macron ne souhaite pas une France des propriétaires. Il faut avoir le courage de mettre des mots sur des mots qu'ils le disent ouvertement.
Voilà.
Vous me citez l'exemple du maire de Cannes, David Lisnard, qui a évoqué ces questions-là. Je crois qu'aujourd'hui il faut faire preuve de franchise, de courage et de transparence. Mais je vais vous dire, regardez hier dans le cadre du rapport de la Cour des comptes, je trouve que le président de la Cour des comptes était extrêmement aussi inquiet de la situation. Et il a dit, mais je crois que c'est comme ça aussi qu'on redonne courage et qu'on redonne de la valeur au discours politique.
Et vous avez l'impression. Alors, je vais vous dire. Et j'aimerais avoir votre analyse là-dessus. On a tous espéré avec le maire de Dunkerque, vous aussi, avec Patrice Bergrit, qui était un bon maire, qui a retravaillé la ville, les fiscalités et l'endettement de la ville de Dunkerque, qui a été réussi. Nommé au logement en août dernier, il fait à peine 5 mois pour se retrouver au transport. Quel désaveu!
Je suis bien d'accord avec vous, je ne remets pas en question.
Et il a perdu. Non, non, mais attendez.
En cause là. Mais c'est la faute du gouvernement et plus globalement
la
de l'exécutif.
De avec des arbitrages. Mmh. Est-ce que Guillaume Kasbarian gagnera sur des arbitrages? Pourquoi les gagnerait-il alors qu'il est le cinquième?
Je lui souhaite, et d'ailleurs je trouve que quand même malgré tout, on a mis quand même quelqu'un qui connaît bien ce domaine-là. Moi j'ai eu l'occasion de faire une visioconférence avec lui dans le cadre du congrès de la Fédération des EPL en décembre dernier,
oui.
Et c'est un député qui connaît extrêmement bien le domaine. Mmh. Après, est-ce qu'il sera en capacité de pouvoir se faire entendre vis-à-vis du gouvernement? Je vais vous dire, la seule solution qu'il aurait fallu pour envoyer un signal fort, c'était envoyer un ministre, non pas délégué ou subdélégué, c'est un ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, qui couplait à la fois le logement, l'urbanisme, pourquoi pas aussi la transition écologique, et là-dessus on aura envoyé un signal fort. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Dernière question. Alors à Nîmes, vous n'êtes pas gâté quand même, puisque il y a une sacrée crise du logement avec des administrés qui vous font pression. Et Dieu sait que c'est pas évident de trouver des friches foncières. Et on avait fait une très belle émission et vous êtes, je peux le dire, un maire bâtisseur qui volontairement veut bâtir, mais pas n'importe.
J'appartiens à une majorité d'un maire bâtisseur.
Voilà.
Tout à fait.
Mais pas n'importe comment et pas n'importe quelle façon. Bâtisseur n'est pas quelque chose qui est, du style bétonneur bas de gamme, mais bâtisseur au sens noble du terme, c'est-à-dire que vous trouvez un lieu pour la cité, pour vos administrés, pour le bien exclusif de vos administrés. Ça doit être désespérant, non, de temps en temps, de se dire comment on fait pour régler des situations sociales. Toutes les semaines, à la mairie, les gens viennent vous voir en disant « Monsieur Plantier, faites quelque chose, faites quelque chose. »
En fait, c'est notre rôle. Nous, aujourd'hui, on est élus.
Comment vous faites pour
local,
gérer toutes ces situations?
Écoutez, on travaille à la fois en équipe et surtout avec une ambition très forte. Moi, j'appartiens à une majorité municipale qui, depuis plus de 25 ans, a fait de Nîmes une ville à taille humaine, avec ce calibrage de 160 000 habitants, dans laquelle il fait bon vivre.
Ouais.
Et donc, on a une vraie volonté, à la fois sur des projets structurants. Nous étions ensemble au Musée de la Romanité, qui est un équipement ô combien important pour le cœur de la ville. Demain, nous allons inaugurer le Palais des congrès, donc des projets structurants, mais à côté de ça, on a à cœur de veiller à ce qu'on appelle de la proximité, c'est-à-dire à satisfaire l'intérêt général vis-à-vis des riverains. Et c'est comme ça que l'on travaille aux côtés de Jean-Paul Fournier pour essayer de trouver des solutions. Bien sûr que la situation n'est pas simple, bien sûr qu'on aimerait que les voyants soient beaucoup plus positifs, mais quand on regarde un petit peu d'un point de vue macro à l'échelle d'autres territoires, on se rend compte que finalement, le travail qui est fait correspond à ce que attendent nos riverains, nos concitoyens et nos électeurs.
Vous êtes avocat de formation, vous pratiquez toujours, hein, je crois que vous
malheureusement
travaillez.
Malheureusement, non. Mais non, avec le mandat, c'est un peu plus compliqué.
Et vous arrivez. Moi, je compare simplement le fait comment on donne les indemnités aux élus locaux Je suis très surpris de la faiblesse des indemnités, moi je vous le dis. Alors c'est vrai que c'est pas très bankable d'un point de vue politique de dire on va augmenter les indemnités des élus locaux, hein, surtout vis-à-vis d'une opinion qui pense à tort que les politiques servent à rien. Et je me dis, finalement, vous êtes un jeune en politique. Quand je dis jeune en politique, c'est un peu flamboyant. Et on se dit, vous pourriez travailler dans un gros cabinet d'avocats, gagner beaucoup d'argent, et vous vous êtes investi politiquement. Moi, j'ai envie de poser la question pour vous donner l'exemple. C'est parce que vous êtes vraiment cette incarnation de cette génération dont on a besoin dans ce pays.
C'est gentil.
Mais oui, on a besoin de cette génération. Une vision idéologique, un idéal. Parce que si vous n'aviez pas d'idéal, Julien Plantier, vous seriez dans un gros cabinet d'avocats à gagner plein d'honneurs. On est d'accord là-dessus. Il n'y aurait pas de débat. Pourquoi vous vous êtes impliqué ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent de s'impliquer dans la vie politique comme vous l'avez fait avec tout l'investissement qu'on vous connaît ?
C'est un engagement personnel. C'est aussi extrêmement passionnant de travailler à la mise en place de projets. Et puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est parce que j'aime ma ville, parce que j'aime mon territoire, parce que je considère que le travail qu'on est en train de réaliser participe à une amélioration globale de l'état de la ville. Et pour ça, j'en suis extrêmement fier, extrêmement satisfait. Après, vous parlez de la question des indemnités des élus. Je crois que là, aujourd'hui, le Parlement est en train de travailler pour on va dire, stabiliser le statut de l'élu. La plus grande difficulté, c'est pas tant les indemnités, notamment par rapport aux grandes villes. Bien sûr qu'il faut valoriser les indemnités petites communes,
bah oui.
Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est d'essayer de faire comprendre à l'ensemble de la population que pour être un élu engagé, il faut être aussi un élu indépendant. Et pour cela, il faut réussir à stabiliser à la fois une vie publique, une vie politique, mais aussi une vie professionnelle. Et c'est cette grande difficulté par rapport à cela sur laquelle il faut qu'on travaille sur le statut de l'élu.
C'est une vision très gaullienne hein, que vous avez. J'aime beaucoup. Voilà.
Merci.
Une génération politique dont on espère effectivement que le pays se saisira. Rendez-vous aux urnes, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. C'est toujours le peuple français qui tranche dans ces cas-là. Merci Julien Plantier.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la mairie de Nîmes, avec le maire de Nîmes, bien évidemment. Une ville magnifique où il fait bon vivre. Je le sais, nous y sommes allés. On continue nos programmes. Il est exactement 10h31. On va enchaîner avec nos amis de Galtier Valuation dans quelques instants. Et ensuite, on va continuer à faire le tour de France avec les élus qu'on aime tant ici à Radio Immo. Tout de suite.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis sur Radio Immo.